Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un peu troublant d'avoir une biographie déjà à cet âge, hein, parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas particulièrement plus âgé que vous, mais félicitations pour le travail. Donc, comme vous l'avez entendu, je suis maître de conférence au sein de l'équipe TMAX pour thermique des matériaux et contrôle de structure du laboratoire CERTES, donc qui est un laboratoire membre de l'OSU EFLUV, qui est donc situé à Créteil. Et nous allons parler aujourd'hui d'un matériau biosourcé de choix, les fibres naturelles. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement les activités de l'équipe TMAX, puis je présenterai ce que sont les fibres naturelles dans un deuxième temps, avant d'aborder quelques résultats expérimentaux effectués au sein du laboratoire. Alors, au sein de l'équipe TMAX, nous avons deux axes de recherche majeurs. Nous sommes intéressés d'une part par l'optimisation des propriétés thermophysiques des matériaux composites. Vous voyez ici en haut à droite ce qu'est un matériau composite. C'est généralement une matrice à base de polymère, donc un assemblage d'une matrice, souvent à base de polymère, dans laquelle on ajoute un renfort, qui peut être une fibre, et ce renfort va donner la propriété souhaitée à l'ensemble, qui forme donc un composite polymère. Si le renfort est constitué de billes métalliques, on s'intéressera aux composites dits conducteurs. Si on met dans la matrice polymère des matériaux à changement de phase, on s'intéressera au stockage de l'énergie par chaleur latente, ce qui est une application dans le bâtiment. Et si on met des fibres naturelles, on s'intéressera aux propriétés isolantes et mécaniques des polymères. Notre deuxième axe de recherche concerne le contrôle de structure par thermographie infrarouge. Donc on s'intéresse ici typiquement au diagnostic d'isolation thermique, c'est-à-dire pour quantifier les déperditions thermiques d'une paroi, typiquement. Vous voyez ici l'image obtenue par thermographie infrarouge d'un bâtiment qui est l'unité de Créteil, pour ne pas le nommer. Donc vous voyez les zones plutôt jaunes montrent que ce bâtiment est mal isolé ou non isolé. D'accord. Et nous effectuons également de l'auscultation d'ouvrages ou encore de chaussées. Voilà, alors pour effectuer l'ensemble de ces recherches, on dispose d'un parc instrumental qui est relativement conséquent. Nous avons par exemple un banc de contrôle non destructif de thermographie infrarouge. Nous nous intéressons aux mesures des propriétés radiatives des matériaux. Donc on peut effectuer ces mesures à l'aide de dispositifs disponibles dans le commerce. Donc ce sont typiquement des spectros UV visibles infrarouges. Ou encore à l'aide d'appareils qui ont été développés au sein du laboratoire, qui sont des émissomètres, notamment la réalisation récente d'un émissomètre portable pour aller faire des mesures in situ, comme il a été précisé précédemment. Nous avons également un analyseur calorimétrique différentiel, un analyseur mécanique dynamique et un dispositif qui a été développé au laboratoire que nous avons appelé DICO pour diffusivité, conductivité, grandeur thermique, on va dire, dont nous reparlerons un peu plus tard. Donc je présenterai plus précisément les appareils et les techniques qui nous intéresseront le moment venu. Donc voilà pour cette présentation rapide de nos activités de recherche et nous allons maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est les fibres naturelles. Alors, qu'entend-on par fibres naturelles? Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les fibres naturelles se différencient en fonction du type de l'origine des fibres. Les fibres peuvent être d'origine végétale, d'origine animale, comme c'est le cas du mouton, de l'alpaga ou de la soie, ou encore d'origine minérale, comme c'est le cas de l'amiante. Donc au passage, ce n'est pas parce qu'un matériau est sain et naturel, ce n'est pas parce qu'un matériau est naturel qu'il est sain. Dans cette présentation, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux fibres d'origine végétale, qui se différencient encore en fonction de la zone de prélèvement des fibres au sein de la plante. Et les fibres peuvent être prélevées au niveau des graines, comme c'est le cas du coton, du capoc, au niveau des tiges, comme c'est le cas du lin que nous présenterons, au niveau des feuilles, comme c'est le cas du sisal, que nous présenterons également, ou encore au niveau des fruits, comme c'est le cas de la noix de coco. Alors, de quelles ressources dispose-t-on en fibres végétales? Alors, il y a une chose qui est remarquable concernant les fibres végétales, c'est qu'elles sont disponibles dans presque tous les pays du monde. Donc, elles sont évidemment différentes d'un pays à l'autre en fonction du climat local. On va retrouver par exemple le sisal en Amérique latine, typiquement au Brésil. On va retrouver le jute en Inde ou encore le kenaf ici en Chine. Et plus proche de chez nous, au sein de l'Union européenne, on va retrouver majoritairement, alors je m'excuse, les couleurs passent un peu mal, on va retrouver le chanvre, hemp, et le lin, flax, en anglais. Donc l'Union européenne, qui, avec plus de 200 000 tonnes de fibres végétales produites annuellement, est le deuxième bassin mondial, donc après l'Inde. Quand on regarde maintenant au niveau de l'échelle européenne, quelle est la position de la France, on s'aperçoit que la France est de loin le premier producteur, avec plus de 80% de la production européenne. Elle est suivie de très très loin par la Belgique et les Pays-Bas. Et quand on regarde un peu à une échelle française, on va dire, quand on prend le cas du lin, on s'aperçoit que le lin est essentiellement cultivé sur la côte normande. Le climat tempéré de cette zone étant propice au développement donc de la culture du lin. Voilà, alors de quoi sont constituées les fibres végétales ? Donc j'ai pris ici l'exemple du lin, d'abord parce que c'est une plante que je trouve particulièrement jolie, et aussi parce que c'est une plante qui est disponible, c'est-à-dire qu'on la cultive chez nous en grande quantité. Donc demain, si vous voulez travailler sur le lin, construire des matériaux à base de lin, vous pouvez. C'est une plante qui est disponible et ici à côté de chez nous. Alors, vous voyez ici une tige de lin. Cette tige est composée d'un assemblage de faisceaux de tiges au sein desquels on va extraire la fibre de lin. La fibre de lin qui a une structure ici constituée de plusieurs parois, de multiparois. Elle a une paroi primaire ici en bas et un ensemble de parois secondaires. Alors, lorsqu'on parle de la fibre de lin, de la fibre élémentaire, on est de l'ordre du micron. Et typiquement, un cheveu, c'est 40 microns. Vous divisez par 2, 20 microns. On arrive à l'échelle ici de la fibre de lin. Quand on regarde un peu plus dans le détail de quoi est composée cette fibre, on arrive à avoir un ensemble de microfibrilles qui sont constituées essentiellement d'une molécule ici, qui est la molécule de cellulose. Donc les fibres végétales sont majoritairement constituées de cellulose. Dans des proportions diverses, comme vous le voyez sur ce schéma, dans des proportions diverses en fonction du type de fibre, mais l'élément premier dans une fibre végétale, c'est la cellulose. Alors ce n'est pas le seul, on trouve aussi de l'hémicellulose, de l'alinine ou encore des cires. Voilà, alors quels sont maintenant les avantages de ces fibres végétales ? Alors nous venons de voir que ce sont des fibres qui se retrouvent donc, dans presque tous les pays du monde, c'est-à-dire que c'est une ressource locale vraiment qui est à privilégier. Les fibres végétales présentent un faible coût, en particulier par rapport aux fibres de verre, qui sont des fibres classiquement utilisées et qui, elles, ne sont pas éco-compatibles. Ce sont des plantes qui sont issues des parties, enfin des fibres, pardon, qui sont issues des parties renouvelables des plantes. Et typiquement, l'idée n'est pas d'aller construire des forêts pour abattre les arbres, mais d'utiliser les parties renouvelables de ces plantes. Ce sont des matériaux qui présentent un faible impact environnemental. Donc, comme vous pouvez voir sur ce schéma, vous voyez ici la quantité d'énergie à produire, enfin pour produire 1 kg de fibres. Vous voyez que cette quantité est nettement plus faible pour les fibres naturelles que pour les fibres de verre ou les fibres de carbone, qui sont deux types de fibres classiquement utilisées. Les fibres naturelles sont donc peu énergivores. Et un autre point fort des fibres végétales, particulièrement intéressant, est leur légèreté, ce qui leur confère des propriétés spécifiques très très intéressantes. Alors par propriétés spécifiques, on entend une grandeur physique qui est ramenée à la masse ou à la densité du matériau. Vous avez ici l'exemple de ce qui est une propriété spécifique sur le module Young. Donc le module Young qui est une caractéristique mécanique d'un matériau, il caractérise la rigidité d'un matériau. Plus ce module Young est élevé, plus le matériau est rigide. Vous voyez ici en rouge le module Young pour tout un ensemble de fibres, les fibres de lin, les fibres de verre, d'aramide ou de carbone. Et vous voyez en vert le module Young spécifique, c'est-à-dire le module Young en rouge divisé par la densité de la fibre. Vous voyez que les fibres de lin ont un module Young spécifique qui est équivalent et même légèrement supérieur aux fibres de verre. Donc ceci est particulièrement intéressant, c'est-à-dire dès que l'on souhaite avoir un gain de masse pour des propriétés mécaniques équivalentes, on pourra favoriser le lin au détriment des fibres de verre. L'intérêt est tout trouvé, hein, il concerne directement tout ce qui est lié au transport, puisque la consommation d'un véhicule, quel qu'il soit, est directement liée à sa masse. Donc, si vous arrivez à réduire la masse d'un véhicule, vous réduisez sa consommation, ce qui est doublement intéressant. C'est intéressant et pour le portefeuille, ce qui est un argument de vente pour les constructeurs, et aussi pour l'environnement, puisque de fait, le véhicule va moins consommer. Voilà, alors quels sont maintenant les inconvénients des fibres végétales ? Elles n'ont pas que des avantages, et elles ont leurs inconvénients, enfin, ou les inconvénients de leurs avantages, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont des végétaux sur lesquels l'homme ne peut pas maîtriser l'ensemble des facteurs qui interviennent. Je pense typiquement au climat, sur lequel l'homme n'a pas vraiment de maîtrise, voire aucune maîtrise. Et avant d'arriver aux produits transformés, il y a un certain nombre d'étapes liées à l'extraction de la fibre, à la récolte, ou la toute première liée à la culture de la plante. Donc plusieurs étapes qui peuvent interagir de façon différente, qui peuvent modifier les propriétés des fibres que nous aurons in fine. Alors, par exemple, lors de la culture, en fonction de l'irrigation ou des précipitations annuelles d'une année sur l'autre, qui peuvent être différentes, en fonction de la densité de semis, c'est-à-dire la quantité de graines au mètre carré, en fonction de l'apport d'azote ou éventuellement d'engrais, ou en fonction de la date de récolte, la structure de la fibre sera différente et donc ses propriétés derrière seront également différentes. Donc le gros problème des fibres végétales, c'est que leurs propriétés sont assez diverses. D'accord, on a une forte dispersion des propriétés, y compris au sein d'une même espèce. À titre d'exemple, vous voyez ici l'évolution de la croissance du lin en fonction du nombre de jours de culture. Et vous voyez que dans les premiers temps, lors de la croissance de cette fibre, c'est d'abord la paroi primaire qui pousse, d'accord, et plus on avance, enfin plus la culture se prolonge, plus ce sont les parois secondaires donc, qui sont situées ici, qui vont se développer. Donc si on arrache le lin après 10 jours de culture ou après 2 mois de culture, on n'aura absolument pas la même structure de la fibre, et donc derrière on aura des propriétés qui sont radicalement différentes. Alors en ce qui concerne maintenant les applications des fibres de lin, traditionnellement il y a 2 secteurs qui sont le textile et la papeterie. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, ce sont les secteurs dits grandissants qui voient des tas d'applications des fibres naturelles se développer. Je pense typiquement aux bâtiments, aux transports et aux loisirs, dont nous allons maintenant voir quelques applications. Les fibres végétales, lorsqu'elles sont utilisées, peuvent être utilisées seules, comme c'est représenté ici. Vous pouvez avoir par exemple de la ouate de cellulose ou de la laine de chanvre qui sont des isolants thermiques. Vous avez peut-être chez vous des combles qui sont isolés en ouate de cellulose ou en laine de chanvre. Et j'ai représenté pour chacune de ces fibres végétales une grandeur physique K qui s'appelle la conductivité thermique et qui est donnée en watts par mètre Kelvin. Cette grandeur physique est importante, donc je vais la détailler puisqu'elle va nous dire si un matériau conduit ou non la chaleur. La conductivité thermique est d'autant plus faible que le matériau est isolant. Donc typiquement, lorsqu'on prend une paroi, vous êtes ici à l'intérieur d'une habitation, ici à l'extérieur, la différence des températures entraîne la création d'un flux thermique dont l'expression est donnée par cette formule, où K représente la conductivité thermique et qui va donc caractériser l'isolation du matériau. Vous voyez que la conductivité thermique des fibres végétales, ici de ouate, de cellulose ou de chanvre, est tout à fait du même ordre de grandeur que les matériaux classiques d'isolation que nous pouvons rencontrer, qu'ils soient au polyuréthane, que ce soit de la laine de roche ou encore de la laine de verre. Voilà, le deuxième type d'application des fibres végétales est lorsqu'elles sont utilisées comme matériaux composites. Donc, pour rappel, un matériau composite, c'est une matrice polymère, comme ceci, dans laquelle on incorpore des fibres végétales. Donc vous avez ici du lin, d'accord, c'est uniquement des fibres, et le produit qui en résulte est un matériau composite, comme ceci, le but étant initialement d'avoir un renfort mécanique de l'ensemble. Ouais, alors, comme exemple de fibres dans les matériaux composites, nous avons le secteur du nautisme, que ce soit par exemple des planches à voile qui sont réalisées à base de fibres végétales, mais l'un des secteurs les plus importants est celui du transport. Notamment dans l'automobile, vous pouvez voir ici donc des plages arrière de voitures qui sont à base de fibres végétales, des platines de rétroviseurs qui étaient initialement à base de fibres de verre et qui sont maintenant en fibres de chanvre, ou encore des garnitures de portières. L'intérêt étant toujours d'avoir des propriétés mécaniques équivalentes, mais un gain de masse considérable de façon à réduire la consommation du véhicule. Voilà, alors ce transparent est important, donc regardez-le bien, ce qui va expliquer la suite de cette présentation. Donc, nous avons montré que lorsqu'on utilisait les fibres végétales, ce qui était intéressant, c'était soit leur caractère d'isolant thermique, lorsqu'on a parlé de la ouate de cellulose ou de la laine de chanvre, ou alors on les utilisait comme renfort dans des matériaux composites afin d'augmenter la tenue mécanique de l'ensemble. C'est-à-dire que nous avons besoin lorsqu'on l'utilise comme isolant thermique, on a besoin de grandeurs qui sont la diffusivité et la conductivité thermique pour caractériser ces fibres végétales. Et nous avons besoin du module mécanique lorsqu'on s'intéresse à la tenue mécanique des matériaux composites. Mais nous avons vu que différents facteurs, notamment lors de la culture, pouvaient interférer et modifier les propriétés des fibres. Également lors de la transformation finale, notamment lorsqu'on utilise les fibres en tant que matériaux composites, puisque les fibres qui sont composées de cellulose, c'est-à-dire sont composées d'un matériau qui est particulièrement hydrophile, qui va aimer l'eau, il va falloir les compatibiliser avec une matrice qui, elle, est hydrophobe et qui ne va pas aimer l'eau. Donc pour améliorer cette adhésion, cette compatibilité entre les fibres et la matrice, il existe tout un tas de traitements qui sont classiquement utilisés. Et en fonction du type de traitement, nous n'aurons pas les mêmes propriétés finales. Donc ceci explique l'ensemble des paramètres que nous avons choisi d'étudier, qui sont la variété des fibres, la zone de prélèvement des fibres, le traitement des fibres, le procédé de mise en œuvre, la fraction volumique des fibres. Alors la fraction volumique des fibres, c'est le volume des fibres sur le volume total, c'est-à-dire volume des fibres plus matrice, et enfin la porosité au sein des échantillons. Donc nous avons étudié l'influence de ces paramètres sur les grandeurs physiques que sont la diffusivité, conductivité et module mécanique. Ces grandeurs physiques ont été déterminées à l'aide du dispositif DICO, de la thermographie infrarouge et de l'analyse mécanique dynamique que je vais présenter maintenant. Alors ce dispositif DICO est un dispositif qui a été élaboré au sein du laboratoire et il permet en une mesure de mesurer et la diffusivité et la conductivité du matériau. Donc vous voyez une image de ce dispositif ici. Le principe est le suivant, on place l'échantillon en sandwich entre deux plaques métalliques, on applique sur une face une excitation thermique périodique et la mesure des variations de la température de part et d'autre de l'échantillon nous permet de remonter à la fois à la mesure de la conductivité et de la diffusivité thermique. Donc l'ensemble du dispositif est placé dans une enceinte qui est sous vide de façon à limiter les pertes par convection latérale. Et ces expériences peuvent être menées en fonction de la température ou en fonction de la pression, ce qui sera particulièrement intéressant lors de l'étude de la porosité des matériaux. La deuxième technique que nous avons utilisée, la technique de thermographie infrarouge, alors ici elle est dite active par méthode flash, puisque nous allons exciter les échantillons à l'aide de flash, qui sont typiquement les flashs de photographes ou qu'on retrouve dans le cinéma. Nous allons éclairer donc une série d'échantillons qui vous voyez ici disposés en mosaïque et nous allons regarder à l'aide d'une caméra thermique l'évolution de cette température à la fois localement et temporellement. Donc typiquement, vous voyez le pulse de l'excitation thermique et ensuite le refroidissement de l'échantillon. Donc via une modélisation thermique qui est donnée ici, dans laquelle je ne rentre pas dans les détails de cette modélisation, nous pouvons remonter à la fois à la distribution de la conductivité et de la diffusivité thermique. Enfin, la troisième technique utilisée est l'analyse mécanique dynamique. Le but de cette technique est de déterminer les propriétés viscoélastiques d'un échantillon. Le principe est le suivant, on applique une sollicitation qui est sinusoïdale, donc avec une certaine amplitude et une certaine fréquence. Donc typiquement, si je tords ce micro, je vais le tordre à une certaine amplitude et à une certaine fréquence, et ce micro va lui aussi répondre de façon sinusoïdale, avec ou non un certain déphasage, d'accord, qui est le petit delta qui est représenté ici. On applique une contrainte qui est ici en pointillé, qui est bien sinusoïdale, et on regarde la déformation correspondante, qui est ici petit epsilon en trait continu. Si le déphasage, c'est-à-dire si le matériau répond instantanément, le déphasage est nul, on parlera de matériaux élastiques. Si le déphasage est de 90 degrés, on parlera de matériaux visqueux. En règle générale, le déphasage est entre les deux et on parle de matériaux visco-élastiques. Alors, lorsqu'on effectue une expérience de DMA, on remonte au module mécanique, qui est un module complexe, qui est composé donc, d'une partie réelle, soit E', soit G'. En fonction du type de sollicitation, puisqu'on peut faire soit un essai de traction, soit un essai de torsion. Donc en torsion, on parlera de G'. Donc la partie réelle qui correspond donc au module de stockage, et la partie imaginaire qui s'appelle le module de perte. Donc vous voyez ici une image de l'appareil que nous avons utilisé, hein, qui est le DHR2 de chez TA Instruments. Et on va solliciter les échantillons composites que je vous ai présentés tout à l'heure en traction, de façon à solliciter l'interface fibre-matrice et d'aller sonder en quelque sorte la qualité de cette interface. Alors, voici pour la présentation des fibres végétales. Donc, je vais maintenant passer à un ensemble de résultats expérimentaux qui ont été obtenus au sein du laboratoire. Donc, je les ai classés en trois catégories, d'accord, qui sont les fibres exotiques associées à des polymères, les fibres exotiques seules et les fibres de lin, qui sont des fibres donc plus locales associées à des matériaux polymères. Alors, dans cette première étude, nous avons étudié quatre échantillons différents, donc qui se distinguent par le procédé de mise en œuvre, mais qui sont relativement classiques, par le type de matrice utilisée, c'est-à-dire que le polymère sera soit du polyester, soit du polypropylène, par le type de fibre utilisée. Nous avons étudié des fibres de feuilles d'ananas, des fibres de feuilles de banane, qui sont des ressources non exploitées à ce jour et même considérées comme des déchets, et des fibres de sisal, qui figurent parmi les plus répandues. Donc, vous avez ici une petite image du sisal, qui, pour rappel, est produit majoritairement en Amérique du Sud. Voilà, et pour chacun de ces échantillons, nous avons étudié différentes fractions volumiques de fibres. Pour rappel, c'est le volume de la fibre sur le volume total. Alors, vous voyez, enfin, l'idée était de mettre en évidence l'influence de divers facteurs. Le premier que nous avons étudié concerne la quantité de fibres. Et vous voyez ici sur ces graphiques, à gauche et à droite, deux comportements qui sont radicalement opposés, puisque dans le premier cas, donc c'est la conductivité thermique que l'on observe en fonction de la fraction volumique, dans le premier cas, ce que l'on observe, c'est que l'introduction de fibres de banane au sein de la matrice polymère entraîne une diminution de la conductivité thermique, alors que dans l'autre cas, l'introduction de fibres de sisal dans la matrice polyester entraîne une augmentation de la conductivité thermique. Donc ce que l'on peut dire, c'est que les fibres de banane sont donc plus isolantes que le polypropylène et que les fibres de sisal, elles, sont plus conductrices que la résine de polyester. Voilà, je passe dessus de peur d'être un petit peu long, mais si vous avez des questions dessus, je reviens volontiers. Un deuxième facteur que nous avons étudié concerne l'hybridation des fibres, c'est-à-dire que tout à l'heure, nous avions mélangé soit des fibres végétales dans le polymère, soit des fibres de sisal. Cette fois-ci, on met et fibres de banane et fibres de sisal dans l'échantillon, toujours en même proportion relative, 50% de l'une, 50% de l'autre, mais pour des proportions globales de fibres plus importantes, allant de 0 à 40%. Ce que l'on observe, c'est une diminution de la conductivité thermique du composite au fur et à mesure de l'introduction des fibres, qui est le comportement qu'on avait observé lors de l'introduction des fibres de banane, ce qui tend à dire que pour ce cas précis, les propriétés thermophysiques sont fixées par la fibre de banane, enfin par la fibre la plus isolante, qui est ici la fibre de banane. Alors nous avons également étudié l'influence de divers traitements sur les fibres, les traitements qui ont pour but de renforcer la compatibilité entre les fibres et la matrice. Donc, ce sont des traitements qui sont usuellement rencontrés. Donc nous avons cette fois-ci étudié les fibres de sisal dans une matrice de polyester, mais en maintenant la fraction volumique constante, toujours à 40%, et nous avons appliqué des traitements soit thermiques, soit chimiques, et nous avons comparé les conductivités thermiques par rapport à un échantillon qui n'avait subi aucun traitement. Donc la conductivité thermique qui nous intéresse, c'est la barre en rouge, hein, représentée ici, et l'on voit que celle-ci peut soit avoir peu de variations, soit augmenter, soit diminuer. Donc globalement, il y a deux types de traitements que l'on peut distinguer, ceux qui entraînent une amélioration du transfert de chaleur ou ceux qui ont peu d'effet ou qui entraînent une diminution du transfert de chaleur. Alors je vais détailler les deux traitements les plus significatifs. Le transfert de chaleur qui entraîne une meilleure augmentation, c'est la benzoylation. On avait vu que les fibres végétales étaient des matériaux qui étaient particulièrement hydrophiles, c'est-à-dire qu'en surface, elles avaient des groupements OH. Donc la benzoylation consiste à venir greffer en lieu et place de ces groupements OH des groupements phényles qui réduisent l'hydrophilicité des fibres et qui tentent à compatibiliser donc l'ensemble. Pour la soude, c'est un phénomène de fibrillation. Vous voyez ici des images MEB. Ici, on a une fibrillation, c'est-à-dire une séparation des fibres qui augmente la surface de contact mais qui n'est pas de nature à augmenter cette conductivité. Le deuxième type d'étude porte cette fois-ci sur les fibres seules. C'est une étude que nous avons effectuée sur le bois de palmier dattier, donc en collaboration avec l'université de Batna en Algérie. Et nous nous sommes intéressés donc au remplacement de matériaux classiques d'isolation par ce type de fibres, en nous focalisant uniquement sur les parties renouvelables, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'idée n'est pas de planter des arbres ou d'aller déforester les oasis. Pas de planter des arbres pour les couper. Donc nous nous sommes intéressés à différents types de bois de palmier dattier, puisqu'il en existe une grande quantité, et également à la zone de prélèvement au sein de la plante, que ce soit le pétiole ou que ce soit la grappe. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la conductivité thermique n'a pas de variation majeure en fonction de la zone de prélèvement ou du type de fibre. Nous avons également regardé l'orientation des fibres, qui peuvent être soit transversales au flux, soit parallèles au flux. Là encore, nous n'avons pas observé de variation significative. En revanche, lorsque l'on diminue la pression, lorsqu'on passe de la pression atmosphérique au vide, on a une diminution d'un facteur 2, ce qui est typique des matériaux qui sont particulièrement poreux. ce qui est confirmé par les analyses MEB où on voit ici le centre des fibres qui est totalement poreux. Alors, la dernière étude concerne les fibres de lin, donc qui sont des fibres locales associées aux matériaux polymères. Et nous nous sommes intéressés dans cette étude à la porosité des matériaux, puisque nous venons de voir que celle-ci influait sur les propriétés, notamment la conductivité thermique des échantillons. Donc, cette porosité est particulièrement importante et elle a lieu à plusieurs niveaux. Vous voyez ici quelques images au niveau micro et au niveau macro. Donc, nous avons divers ordres de grandeur du type de porosité. Donc l'idée est de pouvoir ici remonter à la distribution de taille de pore pour pouvoir remonter au type de porosité. Alors pour effectuer cette étude, on s'intéresse aux variations de la conductivité thermique en fonction de la pression, puisque la conductivité thermique de l'air qui est enfermée dans les pores va varier en fonction de la pression et de la taille des pores. Nous avons réalisé ici toute une série d'expériences, hein, et en modélisant cette évolution, on est capable de remonter ici à la distribution de taille de pore. Nous avons également effectué cette étude par thermographie infrarouge et nous avons pu remonter à une distribution de la diffusivité. Il y a une diffusivité qui est d'autant plus importante que la porosité des échantillons est élevée. Et enfin, nous avons complété cette étude en étudiant l'influence des traitements chimiques sur les propriétés mécaniques. Donc, nous avons étudié ici 4 échantillons, un non traité qui nous sert de référence et d'autres qui ont subi des traitements qui sont usuellement employés dans le textile. Et nous avons regardé... quasiment terminé. Nous avons regardé ici l'évolution du module mécanique en fonction de la température. Ce que l'on observe, donc, c'est une diminution de ce module à partir d'une certaine température, ce qui est caractéristique de la transition vitreuse de la matrice polymère, c'est-à-dire du ramollissement, hein, du matériau. Et quand on compare le module mécanique à température ambiante, on voit que systématiquement, le traitement a pour effet d'augmenter ce module, c'est-à-dire d'augmenter la rigidité du matériau, de plus de 60% pour l'échantillon qui a été traité à la soude. Voilà, alors pour conclure, les fibres végétales constituent vraiment un domaine en pleine expansion qui voit ses applications se multiplier. Ce sont des matériaux renouvelables, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cas de matériaux qui sont des matériaux de synthèse, je pense à ceux dérivés du pétrole. Nous avons pu mettre au cours de ces études l'influence de divers facteurs sur les propriétés mécaniques et thermomécaniques, thermiques. Alors, dans les prochaines études associées à ces travaux, il sera intéressant de prolonger l'étude de la porosité afin de mettre en évidence l'influence du procédé de mise en œuvre que nous avons peu étudié pour le moment sur le taux de porosité et d'étudier à l'avenir des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, c'est-à-dire éviter les fibres de verre, mais surtout des ressources locales et d'avoir des traitements qui sont plus respectueux de l'environnement aussi, parce que traiter à la soude, c'est bien gentil, mais bon, on prend des fibres végétales pour les traiter à la soude, c'est un peu dommage. Et voilà, alors pour vraiment terminer, je souhaitais remercier, parce que la recherche en physique expérimentale ne se fait pas seule, donc je souhaitais remercier l'ensemble des collègues qui ont collaboré de près ou de loin à ces travaux. Je pense en particulier à M. Ibos, M. Feuillet, M. Manchot et Mme Foy. Et je tenais à remercier l'ensemble des organisateurs de cette journée, donc Mme Manuela Sirtog, M. Bruno Lemaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.